Boker Tov, Ezrat Hashem, merci de me recevoir. Ce soir, c'est Rosh Chodesh, Adar. Et Mishé Nichnas Adar Marbin Besimcha, devons augmenter le volume de la Simcha à partir de ce soir. Si les sages nous demandent d'augmenter, c'est parce qu'il faut faire un effort. Autrement dit, si on ne fait pas cet effort, c'est pas évident. On a l'impression que dès que le mois de Hadar entre, eh bien la Simcha vient avec directement. C'est pas ce qui est écrit. Mishenichnas Hadar Marbin de Simcha. Il faut faire un effort d'augmenter le volume de la Simcha pour garder en fait un équilibre naturel des choses. Donc, Be'ezrat Hashem Chodesh Tov Mevorach, que ce Rosh Chodesh, que ce mois soit celui de l'acceptation de l'infini dans ce monde dans lequel nous sommes. Le livre de Bereshit que nous avons terminé il y a quelques semaines est la racine, la base, le fondement même de la création du monde et de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé d'une manière générale. Tout le livre est, comme son nom l'indique, proche. Bereshit, dans le mot Bereshit, les lettres centrales, c'est Rosh. Étant donné que la tête est un élément secret, car il contient en lui des données que le corps ne connaît pas encore, si ce n'est qu'au moment où la tête fait passer le message par la bouche, par les gestes, par les nerfs, eh bien, ces éléments vont circuler tout au long du corps. Il est difficile de savoir ce qui se passe au niveau de la tête, sauf si cette tête commence à s'exprimer. C'est pour ça que tout le livre de Bereshit, dans son ensemble, est d'un degré tellement secret, tellement de ce niveau de tête, on n'a pas la possibilité réellement de savoir vers quoi il nous mène. Le premier livre qui réellement commence à jouer le rôle de messager, d'expression du divin, bien c'est le livre de Shemot dans lequel nous sommes. Le livre de Shemot, comme son nom l'indique, Shem, au pluriel Shemot, veut dire qu'il y a ici un sens. Il y a ici un but. Quand vous dites en hébreu lama, vous avez l'impression que c'est un mot hébraïque. Mais en réalité, c'est un raccourci. Lama, c'est les Shem Ma. Et pour ne pas dire les schémas à chaque fois, c'est fatigant, alors on a raccourci l'âme. Mais l'âme n'existe pas. Ça veut dire que ce raccourci de l'âme introduit la notion de schém, les schémas en français, littéralement, au nom de quoi. Et nous, on traduit pourquoi l'âme. Mais sachez qu'à chaque fois que vous dites l'âme, vous voulez dire les Shema, au nom de quoi? Donc le mot Shem est un nom qui vient exprimer une direction. En hébreu, Sham. Donc s'il y a une direction, il y a un sens. Et donc quand on dit les Shema ou en raccourci, comme je viens de vous le dire, Lama, mais ça veut dire en réalité qu'il y a un but vers lequel je suis en train d'avancer. Et c'est ça les schémas. Donc le livre de Shemot, par définition, lui aussi, étant donné qu'il est Shem, eh bien il nous donne aussi un sens, le sens que le créateur de ce monde veut nous faire passer dans la réalité basse, humaine, dans laquelle nous nous trouvons. Le Shem est donc l'expression de la volonté. Dès que je donne un nom à quelque chose ou à une situation, c'est que je suis en train d'exprimer une volonté vers laquelle je vais courir. En hébreu, courir se dit la route. Comment est-ce qu'on peut dire la route à l'infinitif, ou ritsa, ou bien ratson? La volonté que vous dites en hébreu ratson, en réalité, le ratson, c'est ce qui te fait courir dans la vie. Donc, si tu as une volonté de quelque chose, tu vas courir pour. Donc, yeshli ratson, ani rotse, je veux, donc ani rat, je cours. Si la chose n'est pas importante pour moi, je ne cours pas. Les choses qui sont importantes pour nous, nous courons dans cette direction. Il y a même des animaux qui courent tout le temps. On les appelle shrasim. À découper, shrasim. Ils sont tout le temps en train de courir. Pourquoi? Parce qu'ils ont en réalité un instinct de vie qui ne leur permet pas de rester sur place, parce qu'ils ont l'impression, et c'est une impression vraie, qu'ils sont en train de perdre le temps de leur vie qui est assez court. Donc ils sont tout le temps en train de courir. On les appelle en hébreu shrasim. Qui sont en réalité toutes les cafards et les fourmis et tout ça. Donc ça s'appelle des shrasim. Alors sheret, c'est pas seulement ce qui sort du ventre de leur maman, mais chez Ratzim, chez Krolazman Ratzim, ils sont tout le temps en train de courir. Alors faites-vous l'expérience, les choses qui sont importantes pour vous, vous courez. Les choses qui ne sont pas importantes pour vous, c'est-à-dire vous ne voulez pas ces choses-là, vous n'avez pas de volonté pour ces choses-là, eh bien vous inversez le mot Ratzon et ça devient Natsur. Natsur qui veut dire fermé. Une grenade, elle contient une nitsra. Okay? Quand on enlève la nitsra, ce qui bloque la grenade, eh bien là, elle commence à pouvoir exploser. Tant qu'on n'a pas enlevé la goupille, la nitsra, donc la nitsra ferme. Donc c'est extraordinaire. En hébreu, ou tu cours et tu as une volonté, ratson, ou bien tu es bloqué et tu es natsour. Ce qui a donné d'ailleurs naissance au mot notsri, la chrétienté. Le Notser, c'est pas celui qui vient seulement de Nazareth, Nasrat, mais en réalité, Nasrat veut dire fermeture. Donc, en hébreu, il y a toujours deux forces dans un même verbe, dans un même mot. Ou bien Ratson, ou bien Natsur. Et celui qui est Ratson, nous dit le Zohar HaKadosh, devient un canal par lequel le flux de celui qui veut, c'est-à-dire Dieu, passe. Donc le mot ratson devient aussi sinor, un canal, un conduit. Donc en réalité on vient de jouer avec des mots, toujours du même mot. Le mot ratson devient donc sinor quand tu as un sens et devient natsour quand tu t'enfermes. Donc nous sommes en réalité des sinorot, nous sommes tous des canaux, ou de fermeture, ou d'ouverture du flux divin qui nous traverse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous êtes tous des interrupteurs. On, off. Ou bien vous êtes allumé, ou bien vous êtes éteint. Quand vous êtes allumé, il y a une traversée divine de votre être. Et quand vous décidez de vous fermer, eh bien, chad v'shalom, l'infini ne traverse pas. Au moment où l'infini ne traverse pas, comme chad v'shalom dans le corps humain, si le sang n'arrive pas quelque part, il y a mort du membre en question. Ron, chad v'shalom, si le sang n'arrive pas au pied, il faut couper. Que Dieu préserve. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la circulation du flux divin. Si le flux divin nous traverse, nous fait vivre et nous vivons de son être, d'ailleurs son nom, c'est le nom de l'être, puisqu'il s'écrit Havaya. Ce tétragramme-là que vous voyez, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est l'existence à l'infinitif, Iliot. Au présent, Ani, Hove, je suis. Donc, je suis de son être. Le fait que je sois vivant, c'est parce que je vis de sa propre vie, c'est lui la source de la vie. Donc à l'infinitif, ce nom se dit Iliot, être. Donc ça s'appelle le nom de l'être. elle apostrophe, Shem Havaya, le nom de l'existence. Donc voici l'existence. Moralité, si je me laisse traverser par cette existence, par le nom d'Hachem, je me laisse traverser par la vie, par le flux de vie, donc je suis encore plus vivant. Parce que j'ai permis, en fait, à la vie de circuler à travers moi. Comme quand j'ai une accélération du flux sanguin. Quand vous allez à un entraînement, vous êtes fatigué avant l'entraînement et vous êtes en forme après l'entraînement, paradoxalement. Vous devriez être fatigué après l'entraînement. Non, on est plus en forme. Pourquoi ? Parce qu'on a fait en sorte que le flux circule à travers nous. Et donc, comme on s'est entraîné, en hébreu, animit amen, je m'entraîne, eh bien je deviens ma amine. Je suis dans la émouna. Donc émouna ne veut pas dire la foi, ni quoi que ce soit, ni je crois en Dieu, des bêtises, mais je permets à Dieu de circuler à travers moi. Anima amin, je m'entraîne à la circulation du flux divin à travers mon être. Comment est-ce que vous vous entraînez ? Eh bien, en étudiant, en faisant les mitzvot, en pensant correctement, en parlant correctement, en agissant correctement, en vivant correctement. Et plus je vis en adéquation avec son nom, eh bien, si Chas Veshalom ça va pas, eh bien, le flux ne traverse pas. Si ça va, si je suis fidèle à son nom, eh bien, ce flux me traverse. Donc, je deviens de plus en plus ma amine. Donc de plus en plus vivant, mais ouman, entraîné, leit amen, ou bien oman, artiste. C'est la même racine. C'est-à-dire l'artiste est celui qui prend une idée, qui la met, qui l'applique sur une œuvre. Eh bien c'est la même chose. Nous sommes en réalité des artisans de la volonté divine et nous lui donnons corps dans ce monde. Donc nous sommes tous des artistes d'Hachem. Ceux qui sont grands artistes ne trichent pas. Les petits artistes trichent. Qu'est-ce que ça veut dire tricher, ne pas tricher ? Ne pas être fidèle complètement à ce flux, ou bien être fidèle à ce flux. Plus je suis fidèle à ce flux, plus je deviens moi-même divin sur terre. Car je suis comme lui, ici. C'est ce qu'on doit être, c'est ce que nous devons être. Mais si, Chas Veshalom, je n'ai pas de respect ou je ne suis pas fidèle à, d'ailleurs, le mot fidèle se dit en hébreu, ne'eman, c'est la même racine. Donc, emuna, ne'eman, est-ce que tu es ne'eman? Et comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien tu laisses passer et tu es ne'eman, la makor, certifié, confort, ou bien tu es ma'en, j'inverse tout simplement les lettres, c'est-à-dire je ferme. Les ma'en, c'est refuser. Regardez, c'est encore le même système. Ou bien tu ouvres et tu es ma'amin, ou bien tu fermes et tu es ma'en. Tu refuses. Moralité, tout passe par nous. Et c'est nous qui contrôlons le flux divin qui nous traverse. Ou bien nous fonctionnons comme des interrupteurs on, marche, ou bien, Chas Veshalom, nous fermons le flux, et nous sommes un interrupteur en position de off. Moralité, la seule personne qui fait de l'ombre à la lumière divine, c'est vous-même. Personne à votre place. Et la seule personne qui laisse la lumière divine vous traverser, c'est aussi vous-même. Et personne d'autre. Donc nous sommes en réalité dans une position de prise de conscience et de responsabilité. Et si je prends conscience de cela, eh bien, je laisse en fait le flux de l'infini me traverser. Donc, le livre de Shemot, c'est le livre où l'infini, béni soit-il, descend, entre guillemets, sur terre, pour nous révéler sa volonté. Il vient pour nous dire, les Shem ma barati et haolam. Au nom de quoi, pourquoi j'ai construit, j'ai créé ce monde. Qu'est-ce que je veux ? La création du monde, si on croit, et si nous sommes sûrs qu'il y a un créateur, c'est qu'il y a aussi un but. Et donc, le but de la création va se connaître, se faire connaître dans le livre du Shem, donc dans le livre de Shemot. C'est-à-dire dans le livre de la volonté, du Sham, de là-bas, vers quoi je veux arriver. À partir du moment où je donne donc un nom à quelque chose, ou un nom à un verbe, un nom à une situation, j'ai nommé, donc j'ai défini. Donc définir quelque chose passe par le fait de connaître son nom. Si vous ne connaissez pas le nom d'une chose, c'est que vous n'avez pas saisi encore la chose. C'est pour ça qu'en hébreu, en réalité, tout est secret de nom. Et si je sais le nom de quelque chose, si je suis assez sage pour définir quelque chose, c'est que cette chose, je l'ai imprégnée, je l'ai intégrée. Donc je peux la dire. Moralité, toute la Torah, toute entière, que Dieu nous donne dans ce livre de Shemot, en réalité c'est un ensemble de Shemot. C'est un ensemble de noms, donc un ensemble de définitions, donc un ensemble de buts, de directions, donc un ensemble de vouloirs que nous devons apprendre et traduire. Si je vous demande de répéter ce que je viens de vous dire et que vous êtes incapable, c'est que vous n'avez pas encore saisi complètement ce que je dis. C'est-à-dire votre véritable examen de comprendre un cours, c'est au moment où vous le donnez. C'est au moment où je transmets ce que j'ai étudié, que je passe un examen. Là, le seul qui passe un examen, c'est moi, pour l'instant. C'est-à-dire, je suis en examen par rapport à ce que j'ai étudié, à ce que j'ai écrit. Et donc, ma capacité à transmettre d'une manière nette, limpide, sans rajouter des mots à côté, c'est en réalité un exercice qui prouve si j'ai bien ou moins bien compris le sujet. Donc, si j'ai bien compris le sujet, il est censé être défini dans ma bouche par des mots très clairs, très précis. Et d'ailleurs, ça vous arrivera. Quand je transmets ces mots vous arriveront d'une manière précise. Mais si, Chas v'Shalom, je ne sais pas ce que je suis en train de raconter, et je commence à broder, à rajouter des choses parce que je ne sais pas où aller, donc ça devient un cours qui n'est pas court, qui est très long. Okay? Et qui fatigue, parce que je n'ai pas de sens. Donc je viens, je vous raconte, dans la Gemara il y a marqué comme ça, et dans le Talmud il y a marqué comme ça, et là-bas il y a marqué comme ça, et l'autre il a dit comme ça, et le Rav il a dit comme ça, et le Rav il a dit comme ça. Ça c'est pas un cours. Ça c'est copier-coller, copier-coller, copier-coller. C'est pas comme ça qu'on donne un cours. Un cours ça a un sens. Moralité, il y a un nom. Et ce nom c'est l'expression. Maintenant, vous savez que tout ce qui est créé dans ce monde a été créé en double. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Entendu que Dieu a créé le ciel et la terre, vous entendez bien que ce n'est pas le ciel bleu que vous voyez ici. Et la terre, ce n'est pas la terre marron rouge que vous voyez en bas. C'est beaucoup plus que cela. Car le ciel, en réalité, commence par Sham. Ah, ça nous rappelle le Shem. Donc Shamayim, là-bas il y a de l'eau. Shamayim. Incroyable. Et la terre, c'est aussi ce que nous avons dit tout à l'heure, Eret, donc Rotse, celle qui veut recevoir. Donc nous avons le Sham et nous avons le Rotse. Donc la Terre a une force incroyable d'attraction. Tout ce que je lance, ça tombe. Elle veut tout. C'est pour ça qu'elle s'appelle Eret, c'est-à-dire Rotsa, je veux. Et Shamaim, donc les Shem, donc la direction, donc le sens, eh bien, il a trouvé un ustensile pour se révéler, car elle, elle veut. Et lui aussi veut donner, donc c'est un couple magnifique. Lui veut donner, elle veut recevoir, c'est magnifique. Donc, Bereshit bara Elohim, et ha shamay, et ha aret. C'est-à-dire que le ciel et la terre jouent le rôle d'un homme et d'une femme. Maintenant, la définition, lorsqu'elle arrive, c'est-à-dire que j'arrive à définir quelque chose. J'ai donné les mesures, j'ai donné le sens et les mesures des choses. Par exemple, un chiour. Vous êtes devenu maintenant un chiour. La traduction du mot chiour, c'est mesure. Une mesure. Chiourim, c'est des mesures. C'est-à-dire que mon chiour, il a une mesure. Il ne peut pas dépasser. Ou il ne peut pas être moins. Il faut qu'il ait la mesure que j'ai décidé qu'il ait. Pour pouvoir le transmettre correctement. Donc, à partir du moment où je remplis ce chiour, donc cette mesure par des éléments d'information et de messages que je veux vous faire passer, Shemot, eh bien, à partir de ce moment-là, le shiur devient féminin. Parce que toute expression maintenant qui arrive à exprimer quelque chose est par conséquent féminine. Pourquoi ? Parce que chez le masculin, c'est encore à un niveau potentiel. Comme dans le Shammai. Mais c'est pas encore au niveau concrétisation. Le papa, il a plein de bébés dans sa tête. Des millions. Mais que quelques-uns d'entre eux vont sortir réellement dans le corps et par le corps de la femme. L'homme a des milliards de bébés potentiels, mais vous allez accoucher 5, 6, 7, 3 enfants. Extraordinaire. Ça veut dire qu'en réalité, tous les potentiels de l'homme ne se concrétisent pas. Il y a seulement certains d'entre eux que la femme veut bien recevoir, être capteur et être celle qui va donner les mesures pour former un bébé. Donc tout ce qui est par conséquent révélé dans ce monde est féminin. Toujours. Donc puisque ce monde est un monde où tout est révélé, tout ce monde est une grande femme. Tout ce monde est féminin. Donc à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu révèle quelque chose, c'est déjà de l'ordre du féminin. Alors que lui est, entre guillemets, masculin. C'est-à-dire lui, c'est l'infinité de potentiel. Comme l'infinité de bébés. Mais les seules choses qui passent et qui arrivent sur Terre, c'est parce que nous, comme la femme, nous avons voulu donner corps. Donc nous, en réalité, on donne corps à certains degrés d'Akadosh Baruch Hu. Pas tous. Comme une femme a donné 5 bébés et pas tous les bébés que l'homme avait dans sa tête. D'accord ? Ça veut dire que tout ce qui est concrétisé est par définition donc une femme. Alors quand vous avez Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que le livre de Shemot maintenant qui va nous révéler réellement ce que Dieu veut nous donner, eh bien c'est déjà une femme. Moralité, quand une femme a reçu le message de l'homme, elle est fécondée. Et quand elle est fécondée, elle tombe enceinte. Eh bien, quand Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, eh bien, le mont Sinaï, pourquoi Dieu n'a pas donné la Torah sur une vallée? Mais parce que le mont, la montagne en hébreu se dit Har, c'est le début du mot Herayon, c'est-à-dire la grossesse. Donc lorsque Dieu descend sur le monde tombe enceinte de sa parole. Et quels sont les éléments que Dieu donne à ce monde comme l'homme donne à sa femme au moment du rapport, eh bien, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Ce sont 22 gouttes de semence. Donc toute la Torah, en réalité, ce sont 22 lettres qui sont 22 gouttes de semence que l'infini nous a données. Et avec ces 22 gouttes, toute la Torah, et beaucoup plus que ce que vous voyez, est inscrite. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est un ensemble de ces 22 lettres. Je ne peux pas sortir de ces 22 lettres, en hébreu, bien entendu. Car ce sont les lettres avec lesquelles le monde fut créé. Dieu n'a pas dit en français que la terre soit, que la lumière soit. Sympathique, mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit Yehi Or. Il a parlé en hébreu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a été à l'Ulpan. C'est lui qui l'a inventé. Et c'est lui qui nous dit comment il faut parler. Donc quand vous parlez en français, vous perdez énormément de messages. Parce qu'en réalité, ce sont comme des gouttes de semences qui ne sont pas fécondées. C'est pour ça que Rashi, bien qu'étant français, disait à toute sa famille de ne jamais parler français Shabbat. À la maison. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il soit dans le Kodesh, puisque Shabbat c'est Kodesh. Comment tu peux parler un langage profane le jour du Shabbat? D'ailleurs, j'ai honte dans une synagogue de vous parler en français, mais voilà. Je prends ça comme un pikuach nefesh, parce que vous êtes malade de 2000 ans d'exil. Donc je suis obligé de venir comme aide-soignant. Donc là, je joue le rôle du médecin. Mais si j'étais un petit peu plus normal, j'aurais dit, le cours est en hébreu, peu importe, celui qui ne comprend pas, il a un problème, qu'il a étudié. Alors je suis gentil, je vous traduis chaque mot en hébreu, en français, comme je peux sur un pied, mais c'est pas évident. D'ailleurs, le mot loazi, qui veut dire le langage étranger, c'est les initiales de la Shon Avodazara. Ça veut dire parler une autre langue que l'hébreu, c'est de la Avodazara. C'est le langage de la Avodazara. Que vous le sachiez juste en passant. Alors, il y a des gens qui kiffent étudier en français. Ça veut rien dire. Tiens. Exactement. Les 20 de l'Est, c'est l'ADN du monde. C'est l'ADN de tout. D'ailleurs, le mot, le nom d'Hachem que vous voyez, que vous ne dites pas, vous dites à la place ADN. Baruch Ata, ADN. D'accord ? Je ne veux pas le dire. Je peux le dire si je dis un verset. Baruch Ata, Adonai, Lamdeni Chukecha. Là, j'ai le droit, j'ai dit un verset entier. Mais écoutez bien ce que j'ai dit ADN. Alors qu'en réalité, c'est pas ce qui est écrit. Il y a certains qui ont voulu être témoins de Yého. Nous, on n'a pas le droit de dire le nom. Alors que nous sommes les vrais témoins. Je n'ai pas parlé que l'hébreu. J'ai parlé l'hébreu pour les enfants d'Israël. Pas pour les nations du monde. Si je donnais un cours à un goy, je dois parler sa langue. Mais là, je vous parle en tant que fille d'Israël. C'est ce que je dis. Mais c'est pas nachon, mais il faut toujours aspirer à l'essentiel. J'ai pas dit que c'était, ça valait rien. J'ai dit qu'il fallait toujours apprendre et aspirer un jour à comprendre les choses dans leur premier degré. Car quand vous prenez une traduction, c'est déjà une trahison. Vous ne pouvez pas. D'accord ? Le mot shamaim, ça veut rien dire en français un ciel. En hébreu, même dans le mot shamaim, je n'ai même pas commencé à vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, c'est autre chose, c'est une autre étude. À partir du moment où je donnais un mot en français, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est fini, j'ai massacré le verset. Alors que Bereshit, il y a 720 combinaisons rien que dans le mot Bereshit. Puisque le mot Bereshit est composé de 5 lettres, et je peux écrire Bereshit en changeant toutes les combinaisons. C'est-à-dire, au lieu de lire Bereshit, je peux lire Yéré Shabbat, celui qui craint le Shabbat. C'est les mêmes lettres. Je peux lire au lieu de Bereshit, Brit Esh, une alliance par le feu. Je peux lire au lieu de Bereshit, Aleph Betishré, le premier du mois de Tishré. Je peux lire sans arrêt. J'ai 720 combinaisons que nous étudions dans mon village tous les jeudis dans la nuit. C'est-à-dire qu'il y a ici une étude sérieuse. C'est pas au commencement, ça veut rien dire. D'abord, ça veut même pas dire au commencement. Parce que au commencement, on dit Barishona ou Bereshit. Aucun rapport avec Bereshit. C'est là qui vient introduire autre chose, mais ça c'est un cours à part entière. Je reviens. Donc le don de la Torah au Sinaï, c'est quoi ? Eh bien, c'est la première fois au moment où le peuple d'Israël est arrivé à un certain degré de cohésion et de connexion avec les valeurs de l'infini qu'il entend, que Dieu parle. Je vous pose la question, quand est-ce que la Torah a eu lieu ? Le don de la Torah a eu lieu ? Il y a combien d'années ? 3000, 3500? Non, c'est faux. La Torah est donnée à chaque instant. Il y a 3500 ans, ils ont été capables de l'entendre, c'est tout. Akadosh Baruch Hu n'a pas commencé à dire les 10 paroles à 8h du matin pour arrêter à 11h. Ça veut rien dire, ça. Chas v'shalom. Si vous prêtez à Akadosh Baruch Hu des valeurs limitées par le temps, vous l'avez diminué à un état qui est soumis au temps. Akadosh Baruch Hu est en dehors du temps, donc sa parole est tout le temps est en train d'être dite. Le'olam Adonai devarcha nitzav bashamayim. Je vous casse tout là. Hein? Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de donner la Torah. Et d'ailleurs, vous le dites tous les matins, Baruch Ata Hashem noten ha Torah au présent. C'est pas Nathan, un jour il l'a donné. Alors que s'est-il passé là-bas? Pourquoi effectivement on dit Zman Matan Toratenu? Parce que là-bas, pour la première fois dans l'histoire, nous étions capables de l'entendre. Ah, ça c'est autre chose. Mais si tu étais capable de l'entendre, tu aurais dû le recevoir maintenant. C'est-à-dire maintenant, au moment où nous sommes assis maintenant en train d'étudier, on devrait entendre les paroles de Dieu qui est en train de donner la Torah au présent. Ce que les autres ont entendu là-bas. Il y a un problème. On l'entend pas. Chas v'shalom. Ah, Baruch Hashem. Les élèves du Baal Shem Tov Alav Shalom disaient qu'à chaque fois que leur maître parlait, ils étaient au Mont Sinaï. Et ils entendaient la Torah comme au moment où elle a été entendue. Je dis pas donnée. Entendue. Car elle est toujours donnée. Montez de niveau, vous allez entendre. Et c'est comme ça que vous allez en réalité comprendre que vous êtes en train d'avancer. Car quelles sont les mesures de votre avancée dans la Torah? Eh bien, au moment où vous commencez à entendre, à être traversé par la parole divine, constamment. Donc vous devenez ce que vous êtes à la base, des prophètes, des prophétesses. Car Israël a été créé pour être prophète. Si vous n'êtes pas encore prophète, vous avez encore du boulot. C'est ça que ça veut dire. Donc continuez à travailler. Il y a plein de gens qui viennent me dire, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon tikkun? C'est la question. Le tikkun, c'est que tu deviennes prophète. Tu as déjà prophétisé? Non. Alors continue à bosser. C'est tout. Tu dois devenir prophète. Qu'est-ce que ça veut dire devenir prophète? Pas voir ce qui va se passer demain. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est être en contact avec la voix divine qui parle constamment, sans tomber dans la folie, parce qu'on enferme pour moins que ça. Des gens qui entendent des bruits et des voix. Je ne parle pas de cela, ça ce sont des malades. Okay? Et c'est pour ça qu'en réalité, il faut savoir où vous êtes et donner la mesure. Donc le monde du don de la Torah, il faut savoir d'où est-ce que cette Torah vient. Alors qui a donné la Torah? D'où est-ce que Moshe a entendu la Torah? Au Mont Sinaï? Il y a marqué dans le traité Maxime des Pères, dans la Mishnah, Moshe Kibel Torah Mi Sinaï. Quelqu'un peut me traduire ce que ça veut dire? Moshe a reçu la Torah au Sinaï? Pas du tout. Mi Sinaï. Du Sinaï. C'est-à-dire c'est le Sinaï qui a donné la Torah à Moshe. Ah, moi j'aurais écrit Moshe Kibel Torah Mi Hashem. Moshe a reçu la Torah d'Hashem, mais c'est pas ce qui est écrit. Si vous pensez que les sages ne savent pas parler l'hébreu, à exclure. Les sages connaissent bien l'hébreu. Donc si les sages nous disent Moshe Kibel Torah Mi Sinaï et pas B Sinaï, pas au Sinaï, okay? Avec l'accent français, Moïse a reçu la Torah au Sinaï. C'est pas ça. Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï. Ah, ça change tout. Alors moi je vous pose la question, qui est Sinaï? Alors qu'est-ce que c'est Sinaï? Qui est ce Tor? Qui est ce Sinaï? D'ailleurs s'il n'y avait pas les points, Chas v'shalom, j'aurais pu lire Moshe Kibel Torah Mi Sinaï. Okay. Mais c'est pas lui qui donne. Il n'y a pas marqué ça. Il n'y a pas marqué ça, c'est... Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Moi, je lis la Mishnah. Moshe Kibel Torah, Mi Sinaï. Il n'y a pas marqué Hashem, Nathan, Torah, les Sinaï, et Moshe Kibel Mimena. Il n'y a pas marqué ça. Donc, je suis obligé d'étudier qui est Sinaï. Donc, il faut faire un doctorat sur le mot Sinaï. Et si vous ne savez pas qui est Sinaï, encore une fois, vous tombez dans un piège d'un lieu. Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est comme quand je vous pose la question, en combien de jours Dieu a créé le monde? Vous me répondez en 6. C'est faux, c'est pas marqué. Il y a marqué qui bêchèche et yamim, asas, hachem et sachama et betaret. C'est ce qui est écrit? 46 jours il a créé? Non, ce qui est pas écrit. Qui cherche et yamim asas. Il a créé 6 degrés. Il n'y a pas marqué qu'il a créé en 6 degrés. Donc ça change tout. Donc la création du ciel et de la terre ne s'est pas faite en 6 jours. C'est Dieu qui a créé 6 jours, pas autre chose. Tout est erroné dans la traduction. C'est pour ça que c'est important de comprendre et de savoir donner la mesure juste de chaque traduction. Alors je reviens, Sinaï, les sages nous disent qu'une manière pour comprendre les choses, c'est de prendre le poids des lettres. Chaque lettre a un poids, ce qu'on appelle une valeur numérique. Le Aleph 1, le Bet 2, et ainsi de suite. Alors le mot Sinaï, je ne vais pas vous alourdir, ça fait 130. Et alors qu'est-ce que ça me fait? Eh bien 130 en réalité, c'est un degré, si j'enlève les zéros, ça fait 13. Et 13 c'est Ahava, l'amour, et c'est aussi Echad, l'unité. Mais gardons 130 sans enlever les zéros. Eh bien c'est la même valeur numérique que le mot Kol. Pas le son, la voix. Et pas une voix V-O-I-X, mais presque V-O-I-E. Beaucoup plus profond. Ça veut dire que quand on entend, par exemple, le chauffard, qu'est-ce que vous dites en français? Quelle est la mitzvah de Rosh Hashanah d'entendre le son du chauffard? C'est faux. On n'a pas à entendre le son du chauffard. On a à entendre le col du chauffard. Le col n'est pas un son. Si c'était un son, eh bien tu apportes n'importe quel trompettiste et il se sonne au chauffard. C'est pas ça qu'on est venu entendre. Or, le mot col 130 est égal à Sinaï 130 et qui est différent du dibour. Le dibour, c'est la parole que vous entendez maintenant. Ça, c'est dibour. Mais le col, c'est autre chose. D'ailleurs, dans le mont Sinaï, sur le mont Sinaï, à côté du mont Sinaï, il y a marqué Moshe, qui est un homme, Yedaber, lui il parle, parce que c'est un homme. Ve'a Elohim ya'anenu ve'kol. Mais Dieu lui répond avec un kol. Alors c'est quoi ce langage? Alors d'après vous, quel est le langage utilisé par Dieu? C'est pas ce que vous voyez dans les films. Oui, je suis l'Éternel. Ch'touyot bemit agvanios, hein? C'est n'importe quoi. Tout ça c'est de la Avodah Zarah. Ce que Moshe entend et ce que les enfants d'Israël entendent là-bas, c'est écrit. Kol ha-shofar. Ils entendent le shofar. Donc le langage d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est le shofar. C'est tout. Incroyable. Alors comment je comprends le shofar, moi? Il faut un traducteur simultané. Eh bien, si vous ne savez pas écouter les sons du shofar qui ne sont pas des sons, vous avez compris que c'est des colloques. Comment vous voulez savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dire? Donc ça aussi c'est une étude à part entière, je dois étudier les colottes du chauffard. C'est du boulot tout ça. Donc Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï, c'est-à-dire qui émet des colottes, qui ne sont pas des sons, attention, et qui vient d'un degré qui s'appelle Sinaï. Le Zohar nous dit que c'est le Olam Haba. Je vous traduis à nouveau. Moshe a reçu la Torah du Olam Haba. Parce que la Olam vient du monde futur. Aïe. J'ai pas dit Olam Sheyavo, j'ai dit Olam Haba, c'est au présent, du monde qui vient. Le monde Olam Haba n'a jamais été le monde futur. Encore une fausse traduction. Il n'y a pas marqué Olam Sheyavo. Il y a marqué Olam Haba, Achav, Sheba. Mi Haba, Bator, c'est celui qui vient maintenant. Il est au présent. Est-ce que Tel Aviv est au présent? Oui ou non? Oui. Mais par rapport à moi, c'est le futur, parce que pour aller là-bas, il me faut 1 heure. Hein? Mais c'est le présent. Eh bien, c'est la même chose, le Olam Haba, il est au présent. Le problème, comme noté la Torah, c'est au présent. Il n'y a jamais eu du passé. C'est pas le passé, Chas v'Shalom. Si c'était le passé, vous avez jeté Dieu dans les oubliettes de l'histoire. Exactement, tout est au présent. Sinon, je n'ai pas besoin de lire la Torah. Donc, quand vous lisez la paracha de la semaine, vous parlez de qui en réalité? Pas des acteurs qui ont joué le rôle qu'ils ont joué il y a 3000 et 4000 ans. Vous parlez de vous-même. C'est-à-dire, si tu n'es pas trouvé à l'intérieur de la paracha par eau, qui est en toi, et Moshe qui est en toi, t'as pas compris la paracha. Pour vous, Paro et Moshe, ce sont deux acteurs qui étaient dans l'histoire. Nahon ? Mais c'est pas ça, Chas v'Shalom. Alors je vais vous raconter une histoire. Vous avez à l'intérieur de vous un peuple d'Israël qui attend de se libérer de votre Égypte corporelle. Et il y a un roi en vous qui vous empêche de vous exprimer. Il s'appelle Paro. Il a une bouche, Chaval al-Azman, là il sort. D'ailleurs, Paro, c'est Pé-Ra, la bouche du mal. Et il attend que Moshe, qui est en vous aussi, fasse sortir l'Israël qui est en vous ou de l'Égypte qui est en vous. Ah, là, je vous ai traduit toute la Torah autrement. Donc, moralité, quand tu es en train de parler de la sortie d'Égypte, de qui tu parles ? De toi-même. Et si je veux rentrer dans les détails, même ça, c'est faux. Parce que la sortie d'Égypte, qui sort ? L'Égypte. Il n'y a pas marqué la sortie de l'Égypte. Il y a marqué la sortie d'Égypte. Yesia Mitzrayim. Lo Yesia Mi Mitzrayim. C'est encore autre chose. Ça veut dire que je dois faire sortir l'Égypte qui est en moi. L'exil qui est en moi. Ça c'est autre chose. Vous êtes sorti d'exil. Mais est-ce que l'exil vous a quitté? Ah. Question. Je laisse beaucoup de questions, mais c'est ça mon rôle. C'est de créer des Kelim. Je ne peux pas vous donner une réponse une fois tous les deux ans. Ken. Donc je viens pour poser des questions. Après, vous travaillez. Le but d'un enseignant, c'est donner à l'élève le désir de courir. Donc de rosser, d'avancer. Donc le Sinaï, en valeur numérique 130, c'est le Olam Haba. C'est-à-dire que c'est avec cette voix du chauffard que l'Éternel se dévoile à l'humanité. Donc Moshe, lui, c'est un homme. Il parle. Moshe Yedaber. Normal. On n'a pas fait de Moshe un dieu, nous. Chas v'shalom. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne sait pas où il est enterré. Exprès pour ça, pour qu'on n'aille pas, Chas v'shalom, toute la journée pèleriner là-bas. Faire très attention de ne pas rendre des hommes à Avodah Zara. À bon entendeur, salut. Ça veut dire que Moshe est un homme. Aussi grand soit-il. Mais Akadosh Baruch Hu va Elohim Ya'anenu Bekol. Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle ici Elohim, et ça c'est encore un des noms. Eh bien, il lui répond avec ce col dont on a parlé tout à l'heure. Donc en réalité, ce col est le col du chauffard, et la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit la chose suivante. Chauffard, chaque fois qu'il s'agit d'un chauffard, Keivan, puisque de l'ezikaron ka'ate, c'est de la ramène, n'ayez pas peur, puisqu'il vient pour nous rappeler quelque chose, Kelifnim Dame, il est toujours un élément, un instrument profond. Donc le chauffard est considéré par nos sages comme un élément qui n'est pas de ce monde. Donc ne croyez pas qu'un chauffard c'est un instrument qu'on a arraché juste de la tête d'un bélier. Ça, c'est peut-être le chauffard, mais le son qui va sortir de l'intérieur de ça, par un souffleur qui sait souffler et trouver le véritable son du chauffard, si on veut parler de son, parce qu'on parle en français, eh bien ça, c'est encore autre chose. Donc il faut que je trouve le son, le véritable son de mon chauffard. D'ailleurs, c'est bien d'avoir un chauffard à la maison. Parce qu'en réalité, vous avez un élément représentant du Olam Haba. C'est-à-dire, à chaque fois que je regarde mon chauffard, je sais que c'est l'ambassade de Dieu. Puisque c'est le Olam Haba, c'est le monde qui vient, c'est le monde parallèle, c'est le monde que je dois, moi, normalement, monter et descendre sans arrêt pour être en lien. Alors qu'il est au présent. Où est-ce qu'il est, votre Olam Haba? Votre Neshama. Il est où, votre Olam Hazé? Votre corps. Est-ce que les deux vivent ensemble? Oui. Donc vous vivez dans le Olam Haba, dans le Olam Hazé. C'est tout. Olam Haba n'a jamais été le monde futur. Ça veut rien dire, ça. Question. Qui est capable d'entendre les colottes du chauffard? Non, pas tout le monde. Le peuple d'Israël. Le peuple, ok. Quand on dit tout le monde, c'est tout le monde, ok. Mais chez nous, c'est vrai. Slicha. Nachon, nachon. Nachon. Ça, c'est une Gemara, aussi en Israël, et aussi au Mexique, et aussi partout. C'est une Gemara, mais faut rechercher dans le traité de Sanhedrin, qu'avant l'avènement messianique, on entendra des sons du ciel. Et les gens ne sauront pas d'où ça vient. C'est marqué comme ça. Kolot. Mamash. Maintenant, qui est capable d'entendre ces kolot? Parce que ces kolot, finalement, ces sons, on va le dire sons, parce qu'on ne peut pas parler autrement. Ces sons se sont transformés en quoi? En lettres de la Torah que nous connaissons aujourd'hui, puisque c'est la parole divine. Ça, c'est le vent. Quel? C'est Ruach, HaKodesh. Ruach HaKodesh. Quel ça dépend. Donc, en réalité, Akadosh Baruch Hu nous parle donc par le shofar, mais nous avons une traduction simultanée qui nous amène ces colottes, qui nous en fait des lettres. Et donc, toute la Torah entière, en réalité, c'est le son du shofar. Et c'est Am Israël qui, seul, a été capable de l'entendre, puisque la Torah a été donnée à qui? À Israël. Alors je vous repose la question, c'est un piège, est-ce que la Torah a été donnée à Israël? Non. C'est Israël seulement qui était capable de l'entendre, puisque Dieu parle tout le temps. Alors pourquoi les autres ne l'ont pas reçu? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas à l'étage de la réception, c'est tout. Donc seulement celui qui est à l'étage de la réception du son divin peut l'entendre. C'est simple à comprendre. Moralité, ça prouve quoi? Que nous sommes le seul peuple sur la terre capable d'entendre la parole divine sans mourir. Ben oui. Vous savez ce que c'est recevoir la parole divine et ne pas mourir? Mais c'est énorme. Vous savez comment ça marche de l'électricité? Il y a un plus très sympathique qui veut donner un moins. Très sympathique aussi. Mais entre le plus et le moins, il y a une résistance. Ce que vous appelez par le chiffre. Quand vous allez à la macolette, vous dites, je veux une lampe de 200, je veux une lampe de 25, je veux une lampe de 30. Vous parlez de quoi? C'est quoi le chiffre? C'est le type de quoi? De la résistance. Donc moralité, vous voulez de la lumière selon votre capacité de résister. Parce que si le flux électrique qui passe, il est de 200, mais moi j'achète une lampe de 25, que se passe-t-il? Elle éclate, elle explose. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le plus, c'est Akadosh Baruch Hu, et le moins, c'est Israël. Et Israël doit avoir une résistance assez forte pour recevoir la parole de l'infini. Donc notre résistance est une résistance infinie. Extraordinaire. Et qui nous a créés de cette manière? Lui-même. C'est ça le choix. Quand on dit « Asher Bachar Banu Mikol Amim », qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a choisi de parmi les nations? Vous avez déjà vu dans la Torah une histoire où Dieu a mis toutes les nations par terre et il s'est dit, tiens, alors qui je vais choisir? Bon, ceux-là. Jamais il y a une histoire comme ça. Alors, il a été où ce choix? Quand est-ce qu'il a été fait ce choix? Bien avant la création du monde. Il y avait un seul choix, en fait, de nous créer de cette manière. C'est tout. C'est-à-dire que Dieu a eu le choix de nous créer à nous avec la résistance nécessaire et suffisante de recevoir sa lumière sans mourir, sans exploser. C'est pour ça qu'on dit « Asher Bachar Banu ». Ça, effectivement, c'est bien avant la création du monde. Donc, moralité, nous avons une résistance intrinsèque, elle est à l'intérieur de nous. Chacun de nous est un porteur de cette résistance-là. C'est pour ça qu'on est très fort. On peut résister à la lumière divine. Vous pensez bien que tous ces terroristes autour ne pourront rien contre nous. Ils essayent, ils font des blessures, mais ils pourront jamais nous détruire. Parce que nous avons une résistance divine, énorme, qui brûle tout le monde. Donc nous sommes la seule adresse terrestre pour l'infini. J'avance, vous êtes avec moi, vous me suivez ? Donc si l'infini veut donner son message au monde, il doit passer obligatoirement par le seul élément qui est capable de l'entendre et de ne pas mourir, c'est-à-dire Israël. Donc en réalité, la première adresse email, c'est nous. D'ailleurs, im, elle, veut dire avec Dieu. Donc nous sommes la seule adresse im, elle, qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé dans ce nom. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué Israël, Keb, @gmail.com. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut passer un message, il le fait passer à qui? À son prophète. Donc Israël tout entier est un prophète pour les nations du monde. C'est tout, c'est aussi clair que ça. Et donc toute la Torah que nous avons reçue, par conséquence, est une prophétie. Donc la Torah est une prophétie. C'est en réalité l'ensemble de la volonté que le Créateur veut faire passer à ce monde, pour que ce monde vive selon des critères plus élevés. Clair ce que j'ai dit? Ok. Ça veut dire qu'en réalité, si nous sommes capables, les seuls, à entendre, d'entendre ces voix, ces colotes, c'est que nous sommes les porteurs du message. Qui voulait jouer ce rôle? Les Égyptiens. C'est pour ça qu'il fallait faire un tri en Égypte de qui est vraiment le véritable élément résistant, capable de résister. Ceux qui ont voulu jouer au premier-né, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Les faux premiers-nés, tous les premiers-nés égyptiens sont morts, parce qu'ils voulaient dire, c'est nous les premiers-nés d'Akadosh Baruch Hu. C'est par nous qu'ils passent. Alors Dieu a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je passe. Le véritable premier-né va vivre, puisqu'il est capable de me contenir, et l'autre va mourir normalement. Eh bien, les faux premiers-nés sont morts. C'est pas que Dieu a puni les premiers-nés d'Égypte. Il a tout simplement diffusé sa lumière. Ceux qui n'étaient pas capables, comme la lampe de tout à l'heure, explosaient. Vous comprenez comment ça marche? Il n'y a pas un Dieu punisseur, on n'est pas dans la chrétienté. Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière bienfaisante. Mais il faut préparer des ustensiles capables de la contenir, sinon, Chas v'Shalom, la personne peut exploser. Pourquoi un goy qui n'a pas fini encore sa conversion, on ne le laisse pas faire Shabbat complètement? On lui fait profaner le Shabbat dans un petit coin tranquillement. Vous savez pourquoi? Pour le sauver, parce qu'il peut mourir. Parce que s'il touche à cette lumière du Shabbat, comme il n'a pas encore l'ustensile nécessaire, il peut exploser. Donc quand on lui permet de vivre en profanant le Shabbat. Extraordinaire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, par le don de la Torah, donc par ce premier email qu'il envoie, il descend dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il descend dans ce monde? Est-ce que Dieu descend? S'il descend, ça veut dire qu'il est là-bas. À un moment donné, il a quitté là-bas pour venir ici. Mais c'est quoi ça? C'est un ange, c'est Batman. Chas v'shalom, il ne faut pas limiter à Kadosh Baruch Hu. Alors quand il est écrit dans la Torah que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, ça veut dire qu'il s'est dévoilé. Descendre ne veut pas dire descendre, changer d'endroit. C'est comme moi, j'ai besoin de me mettre à la niveau d'un élève. Je n'ai pas bougé de ma place. Mais j'ai descendu ma pensée avec un verbe qui est correspondant à celui qui va m'écouter. C'est ça, descendre. Donc il va se contracter, il va s'habiller pour que l'élève le reçoive. Si maintenant j'enseigne la Torah à un petit garçon de 5 ans, je vais lui parler comment? Mais comme il est capable d'entendre. Ça veut dire que je suis descendu. Exactement. Et comme la Torah parle un langage humain, Dibra Torah Kilshon Bnei Adam, alors elle parle, mais nous, les enseignants, on doit dire aux gens de ne pas se tromper. Attention, de ne pas croire qu'Akadosh Baruch Hu, un coup il était sur une chaise, après il s'est levé de la chaise, il est descendu, il a donné la Torah, il s'est dit, tiens, il est 11h, je dois monter. Chas v'shalom. Attention, de ne pas comprendre comme ça, comme à Rosh Hashanah, Dieu est assis sur un trône de rigueur, et au moment du chauffard, il se lève du trône de rigueur et il s'est assis sur le trône de Rachamim. Quoi, il a deux chaises là-bas? Alors quand il est là-bas, il n'est pas là-bas. Et quand il est là-bas, il n'est pas là-bas. Alors vous avez limité Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini béni soit-il. Il est omniprésent, omnipotent. Donc descendre veut dire tout simplement se dévoiler. C'est tout. C'est ça le mot Vayered. D'ailleurs, c'est la même racine que le mot Adar, dans le Rosh Chodesh et Soussoua. Qu'est-ce que c'est Adar? C'est les mêmes lettres. Dans le mot Vayeret, c'est comme si tu demandais au Yud de descendre, puisque le mot Yered, c'est Yud, Red. Descends, s'il te plaît, Yud, que tu es. Yud, Red, Yarad. Eh bien, Adar, c'est la même chose. Au lieu que ce soit le Yud, c'est le Aleph. Aleph, Dar, Aleph, Red. Descends, Aleph, c'est-à-dire l'unité de Dieu descend sur notre monde. C'est ça le mot de Adar. Parce que le mot Dar, c'est comme en arabe, la maison. Donc habiter, dira. Dar Diallo, en français. C'est le français, non, d'aujourd'hui, non? C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça, non? Je parle en français, là.
Mais Adar, en arabe, quand on dit Adar, c'est pas...
Non, ça c'est Adar, avec un Aïn. Adra. Ça, c'est autre chose. Je parle bien français, attention. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu fait une contraction, ce qu'on appelle un tzimtzum, pour descendre dans ce monde. C'est comme s'il se contractait pour ne pas tout donner. Parce que imaginez-vous la lumière de l'infini dans sa pleine lumière. C'est énorme. Donc, il n'y a personne qui peut supporter. Donc Akadosh Baruch Hu se met à un niveau, au niveau de l'homme. Donc il parle un langage que l'homme peut parler, peut comprendre. D'ailleurs, Sira, déjà au Mont Sinaï, ils sont morts. Quand tout le monde est mort. On est mort, c'était nous. Ken, et on est ressuscité, on a ressuscité. Pourquoi? Parce que c'était tellement énorme cette vision et ces sons et tout ça, qu'on n'a pas supporté, même si nous sommes déjà fabriqués avec la résistance. Alors imaginez-vous. Et encore, Dieu s'est contracté pour ne pas nous brûler totalement. Donc au lieu de venir avec sa pleine lumière, il est venu avec des écrans, et des écrans, et des écrans. Comment ça s'appelle dans la Torah, ces écrans? Vayered Hashem Be'anan. Il est venu dans la nuée. Pourquoi il vient dans une nuée? Il ne peut pas venir sans nuée? Mais tout simplement parce que le mot Anan, Me'unan, c'est un vêtement qui cache en réalité, qui fait un écran pour ne pas que la lumière nous brûle. Donc quand la lumière du soleil passe par un écran d'un nuage, elle est voilée, donc tu peux la regarder. Et bien c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous apparaît, il vient toujours habillé dans un vêtement. C'est-à-dire, tout ce que je viens de dire, ça s'appelle tikkun. Tikkun. Qu'est-ce que c'est tikkun? Un tikkun, c'est une réparation. Qu'est-ce que c'est une réparation? C'est lorsque la lumière réintègre son ustensile correspondant. Quel est donc le sens du don de la Torah? C'est que l'infini revient, entre guillemets, donc se dévoile, n'oubliez pas, dans le fini. Vous êtes d'accord? Pourquoi je suis obligé de dire revient? Ça veut dire que ça sous-entend qu'un jour il a quitté. Quand est-ce que Dieu, entre guillemets, a quitté ce monde? Jamais? Si, il s'est caché. J'ai pas dit qu'il a quitté, comme tout à l'heure, partir, parce qu'il ne part juste nulle part, mais il se cache. Quand est-ce qu'il s'est caché de ce monde? Au moment de la création. La création du monde a été, en réalité, un mouvement où l'infini se cache pour laisser la place à quelque chose d'autre. Vous êtes d'accord? C'est comme chez vous, dans la famille. Si vous êtes trop présente, vous ne laissez pas la place aux autres. Ni au mari, ni aux enfants. Ou inversement. Si le mari est trop présent, il ne laisse pas la place à l'autre. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous donne une leçon de vie. Il nous dit, si tu veux que l'autre existe, retire-toi un petit peu. C'est l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand Akadosh Baruch Hu a joué cette humilité, il a laissé au monde la place d'être. Donc maintenant, nous sommes le présent. De qui? De cet infini. C'est pour ça que l'infini, c'est la lettre Yud, et nous sommes le présent, Hobé. L'infini au présent, eh bien, c'est la vie. Yud, Bahové. Mais lui, il est au-delà du temps. Donc, avec les mêmes lettres, je peux écrire Haya, donc il était. Je peux écrire Hobé, il est. Et je peux écrire Ihié, il sera. Tout est dans les mêmes lettres. Donc lui est en dehors du temps et de l'espace, mais il a créé un temps et un espace, et des hommes et des femmes, des êtres et des animaux, et des plantes, et du minéral, et du végétal, et de l'animal, et de l'homme. Pourquoi il a créé le monde? Vous étudiez la Kabbalah?
Non.
Alors il y a une réponse kabbalistique, c'est la seule réponse qui soit, mais même cette réponse, il faut l'approfondir, je ne veux pas la jeter comme ça en l'air, c'est tout simplement l'une des raisons, dit le Hari Akadosh, pour que l'homme devienne associé, il veut laisser la place à quelqu'un d'autre dans cet univers. Donc il nous a donné en fait un jeu à compléter, comme un papa qui achète un puzzle à son fils, et il lui défait tout le puzzle, et il commence à l'arranger un petit peu, et il lui dit au fils, allez, termine-le. Alors le fils, il a juste 6 pièces à terminer, c'est les 6000 ans dans lesquels nous sommes, et quand le bébé, il a fini ses 6 pièces, il dit, papa, j'ai gagné! Et le roi, qui sait que c'est lui qui a tout fait, il lui dit, bravo! C'est un grand! Et il va dire à maman, regarde, j'ai fait tout seul! Mais c'est la même chose. On n'a que 6 pièces du puzzle à terminer, ça dure 6000 ans, et l'infini béni soit-il a fait l'essentiel du travail pour nous. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici un don, une expression de la bonté divine de donner à l'autre l'expression d'être son associé. Donc Dieu nous a placés en tant qu'associés pour terminer cette création, pour ne pas être seul entre guillemets. Bien sûr que ce n'est pas suffisant, c'est encore beaucoup plus profond. Mais je ne veux pas rentrer parce que ce sont des choses très 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 kabbalistiques. Je reviens à ce que j'ai dit. Donc Dieu, au moment du don de la Torah, que fait-il réellement? Il revient sur terre. Alors qu'il s'était éloigné, entre guillemets, pour laisser la place. Donc, qu'est-ce qu'il fait en revenant sur terre? Il apporte un cadeau avec lui. Qu'est-ce qu'il apporte? La Torah. Donc il pénètre dans ce monde avec la Torah. Il vient donner à ce monde un cadeau. Après 2000 ans, il tape à la porte et il dit « Coucou, je vous ai apporté un cadeau, l'humanité. C'est moi, papa. Ah, qu'est-ce que tu nous apportes ? Eh bien, je vous apporte en réalité le plan de tout cet univers. Si vous utilisez ça, ça va devenir extraordinaire. Imaginez-vous un cadeau comme ça. On vous l'apporte à la maison, on vous dit « Voilà le cadeau de ta vie. Si tu sais l'utiliser, tu peux tout faire. » C'est quoi comme cadeau? C'est magnifique. C'est pas un petit truc acheté à 200 euros. Ça veut dire qu'il y a tout le plan, toute la force de cet univers dans cette Torah. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu est porté, nous a porté. Et nous sommes ceux qui recevons ce cadeau. Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec ce cadeau? Le diffuser au monde. Car le cadeau n'est pas pour nous seulement. Il est pour l'humanité tout entière. Et si on prend cette Torah, on se la met dans la poche et on dit, ça va, nous on est dans un petit club de juifs, on n'a rien compris. On doit éclairer avec cette Torah l'univers tout entier, le monde tout entier, qui est en désespoir. Alors si vous ne voulez pas jouer ce rôle, celui pour lequel vous avez été créé, c'est un problème. Nous avons été créés que pour jouer ce rôle. Un verset le dit clairement. Isaïe, Am zu yatsar tili, cette nation, je l'ai façonnée que pour moi. Pourquoi faire? Tehillati yesaperu. Je veux qu'il raconte qui je suis dans le monde. Vous n'êtes venu que pour ça. Vous êtes des porte-paroles d'Akadosh Baruch Hu. Mais voilà qu'on a commencé. Mais voilà qu'on a commencé. Nous sommes les porte-paroles. Ça veut dire, c'est nous le chauffard du monde. C'est par nous. C'est bizarre, hein, en français, le chauffard, c'est le plus mauvais conducteur. Alors qu'en hébreu, c'est le meilleur conducteur de lumière. Magnifique, quand même. Ça veut dire, nous sommes ce son du chauffard de l'humanité tout entière. C'est pour ça que la Géoula, elle vient avec ce chauffard. Alors, les gens qui ne comprennent pas, ils se disent, tiens, on va se lever un matin, on va entendre... Non. Vous êtes censé l'entendre maintenant, ce chauffard. C'est tout ce qui se passe maintenant. C'est tous les Olim qui sont en train de revenir. C'est Kibbutz Galouyot. C'est tous les exils qui sont en train de rentrer sur la terre. C'est ça, le chauffard. C'est Kaab, le chauffard, Gadol, le Kabet Galouyotenu. Quand tous les galouillots sont en train de rentrer en Israël, c'est le chauffard gadol. À Noir. C'est tout simplement parce que dans ce monde, il y a une règle. Quand je vois une orange, qu'est-ce que je vois de l'orange? La peau. Quand vous êtes sur la route et que vous voyez des orangers, vous avez déjà vu des oranges? Non, vous voyez que les peaux. L'orange est à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a une règle dans ce monde, l'écorce précède le fruit. Toujours c'est comme ça. Qui est sorti en premier? Esav ou Yaakov? Esav. L'écorce précède le fruit. Qui est apparu en dernier dans ce monde? Quel est le peuple qui est apparu en dernier? Israël. Nous sommes les derniers apparus dans ce monde. Tout simplement. Parce que l'écorce précède le fruit. C'est comme ça que le monde marche. Nachon. Nachon. Quand est-ce que le jour commence? La nuit. Donc la nuit précède le jour. Vayehi erev, vayehi boker yom echad. Donc ce fut l'écorce, ce fut le fruit, une seule unité. Baruch Hashem. J'essaye d'être net, parce que moi j'ai souffert de réponses pas nettes. Alors j'ai décidé, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, d'étudier d'une manière très précise pour ne pas laisser ceux qui viennent m'écouter dans un flux artistique. Tiens, un flou artistique. Qu'est-ce? D'accord.
Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plein de lumières.
Quelle?
D'accord. Le problème, c'est que notre
télévision n'est
pas
comme un... D'accord.
Comment on fait pour se reporter aujourd'hui?
C'est pas qu'aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui. Votre question, elle est vraie.
À une élite, on va dire, aujourd'hui, la Torah est diffusée, bon, on le voit partout, mais on a l'impression de...
Bien fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'en réalité, nous avons une seule chose à faire aujourd'hui. C'est travailler nos mesures.
Comment?
C'est ça le tikkun amidot, c'est ça le tikkun des kelim. D'abord en sachant quel est le niveau de Torah que le Mashiach va enseigner. Si je suis pas au courant de ce qu'il va venir me donner comme cours, il va peut-être venir Be'ezrat Hashem sûrement, mais est-ce que je serai prêt à entendre ce qu'il va me dire? Donc il s'agit maintenant de savoir pourquoi j'ai été façonné? Donc je dois étudier la racine et la structure intérieure de mon peuple. Qui je suis? Mais si tu ne sais pas qui tu es, si moi je ne sais pas qui je suis, comment je peux jouer mon rôle, mon véritable rôle dans l'histoire de l'humanité? Comment je peux jouer le rôle de Dieu? C'est pour ça que ces cours sont tellement importants. Avant de rentrer dans un passage de la Torah ou de la Gemara ou d'un traité ou de ce qu'il a dit le rabbi comme ça ou l'autre, il faut savoir qu'est-ce que nous sommes dans la base. Est-ce que je suis un juif individuellement parlant? Réponse, non. Je suis une nation et une nation ne peut pas se révéler en dehors de sa terre. Donc je suis obligé de dire à tout le monde de venir. Et c'est sur cette terre qu'on commence à construire les kélim. Mais les gens, ils comprennent pas. Ils se disent, moi, si je suis religieux, même à la rue des Rosiers, à Paris, je suis tranquille. Chas de shalom, ça veut rien dire, tout ça.
Quel?
Ah, ça, c'était une punition. C'était une punition. Encore une fois, c'est pas sa volonté, chas de shalom. C'est parce qu'on a détruit notre structure d'ici qu'on a été jeté dehors. Quand je jette un élève de la classe, c'est ma volonté? Pas du tout. Je lui dis, sors, tu es en train de casser le cours, nakhon? Mais si l'élève, il est bon, qu'est-ce qu'il fait au bout de 5 minutes? Il tape, il dit, est-ce que je peux rentrer? Ça y est, je me suis calmé. Rien fait. Mais ceux qui n'ont rien compris, les mauvais élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, chouette! Je vais monter un club de foot à l'extérieur, il m'a jeté de la classe. C'est ce que font Chas v'Shalom nos frères en dehors d'Israël aujourd'hui. Au lieu de rentrer, ils ont monté des clubs là-bas. Ken, Bechlet. Nachon. Donc il y a un problème très grave de la compréhension de ce que je suis en train de vous donner ici. C'est-à-dire que nous sommes un peuple et non pas des juifs religieux individuellement parlant.
Comme la
Nahon, je suis d'accord. C'est une catastrophe. Nahon. Est-ce que... Non. Pas taper. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses telles que la Torah le dit. C'est pas moi qui dis ça. Si j'ai envie de donner un cours de Torah pour renforcer une tendance, c'est autre chose. Moi, je dis ce que la Torah dit. Ou batem el haaretz, v'yirishtem ota, v'yishaftem ba. C'est la Torah, c'est pas moi. Tous les jours dans la Hamida, qu'est-ce que tu dis? Amachazir shrinato lesion, ça suffit. Slicha? Il faut aller, et c'est ce qu'on fait malheureusement. Moi je fais, je le fais. Je voyage presque 2-3 fois par an pour aller faire ce travail. Mais on fait des cours sur Internet, vous pouvez rentrer, il y a tous les cours sur Internet, dans le monde entier. Parce que malheureusement, ils ne comprennent pas encore le sens de la nation. Et la plupart d'entre eux veulent rentrer, mais ils ont des problèmes financiers essentiellement. Bezrat Hashem, il faut prier pour eux. C'est pas Chas v'Shalom jeter une pierre, parce que nous étions tous là-bas aussi. C'est pas Chas v'Shalom qu'elle cassait. Pas du tout. C'est par amour, au contraire, pour notre peuple et pour notre délivrance. On veut tout simplement finir cette histoire qui est en train de nous avaler. C'est possible. Mais, grâce à Dieu, moi j'ai des gens qui me téléphonent et qui me disent « Shalom, vous ne me connaissez pas, mais j'ai fait mon alia parce que j'ai écouté beaucoup. » Donc Internet peut faire ou des dégâts, ou c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Ça dépend ce qu'on en fait, comme tout le reste. Nakhon. Moralité, quelle ? On termine. Ok. Alors, les colloques du chauffard, il faut rentrer dans un degré un petit peu plus profond. Le col, c'est une voie intérieure qui se trouve chez l'homme, chez la femme, au niveau de la poitrine. Mais ce n'est pas encore un sentier sorti. Quand le col se transforme en expression réelle, ça devient un dibourg. Dans le mot dibour, il y a da, bar. Bar en hébreu, c'est comme en araméen, comme en arabe. Barra, dehors. Donc, le col doit devenir barra. Il doit sortir. Donc, ça devient dibour. Donc, tant que le col est à l'intérieur, c'est un message profond plus qu'un son. C'est un ressenti, c'est une expression, c'est une prophétie. D'accord? Elle est dedans. Mais la force, c'est de savoir en réalité transformer ce col en une réalité existante. Ça, c'est la force de transformer ce côté masculin, on va l'appeler maintenant, en côté féminin. C'est au niveau plus haut que la parole. Le col est plus élevé que la parole, mais il a besoin de la parole pour s'exprimer. Donc, Dieu parle en col et Moshe parle en dibour. C'est un traducteur simultané du col divin. Et col en valeur numérique, je vous rappelle, Sinaï. N'oubliez pas ça. Donc Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle col, du Sinaï. Donc d'un degré prophétique. Qu'on appelle, nous, Olam Haba, le monde qui vient, pas le monde futur. Au présent. Ken. Ça s'habille dans tous les éléments de l'être. Je vous pose une question. Quand j'étudie la Torah, qui fonctionne? Mon intellect, mon émotion ou mon corps? Les trois. Bonne réponse. Si en réalité l'étude ne s'arrête qu'à la tête, ça va pas. C'est pour ça que nous disons « Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha ». Ce sont tous mes os qui appellent Dieu et qui lui disent qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, quand tu me pénètres, je dois être pénétré dans tous mes degrés de mon être. Tu dois me traverser au niveau de la parole, de l'esprit, du ressenti, des actions. Tout est ta volonté par moi. Je deviens en fait un instrument de ta volonté divine. C'est autre chose, ça. À partir du moment où je viens en réalité cette expression divine sur terre et que je ne le cache pas, Eh bien, ça veut dire que je suis quelqu'un qui laisse passer la lumière. Et à partir du moment où je laisse passer la lumière, tout réussit dans la vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui la réussite. Okay? Les embouteillages, c'est nous. C'est nous. D'accord? C'est nous les embouteillages. Je termine avec ces deux noms. Vous voyez, Yudke Barke, Elohim. La première des 10 paroles au Mont Sinaï, du Sinaï. Anochi, Adonai Elohecha, Asher Otsetiha Me'eretz Mitzrayim. Je dis le verset en entier pour pouvoir dire les noms. Donc je suis ces deux noms. Qu'est-ce que c'est ces deux noms? Alors en français, vous allez dire, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire je suis? Comment on dit je suis en hébreu? Ani, alors pourquoi dit Anochi? Enfin, il ne sait pas parler. Alors qu'est-ce que ça veut dire Anochi? C'est en hébreu. C'est en hébreu? Qu'est-ce que ça veut dire Anochi? Non? 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 Je vous aide. Qu'est-ce que ça veut dire Anachi? Vertical, yafé meod. Ça veut dire quand Akadosh Baruch Hu nous dit Anochi, il dit qu'en réalité votre monde horizontal, je suis en train de faire rentrer une verticale maintenant. C'est-à-dire que c'est la verticale divine qui est en train de rentrer dans l'horizontale de notre temps qui passe. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu utilise ces deux noms? L'un représente la bonté. L'autre représente la rigueur. Alors je comprends pas, ou bonté ou rigueur. Et en plus, qu'est-ce qu'il nous dit? Asher Otseti Chameret Mitzrayim, qui t'est fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, il a une carte de visite à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur sa carte de visite? Voilà, c'est moi, je vous ai fait sortir d'Égypte. Tu peux pas me dire celui qui a créé le ciel et la terre? Pourquoi la carte d'identité de Dieu, c'est celui qui nous fait sortir d'Égypte? Et en plus de ça, ça fait 50 jours qu'on est sorti d'Égypte avant le don de la Torah. Moi, j'ai déjà oublié que c'est lui. Pendant 50 jours, je suis exténué. Je sais que c'est lui qui m'a fait sortir d'Égypte. Réponse. Écoutez bien, attachez vos ceintures. Rashi. Parce qu'à la sortie d'Égypte, il s'est dévoilé à eux comme un jeune homme avec une arme. C'est-à-dire un guerrier qui est capable de se défendre pour créer la nation d'Israël. Et là, au moment du don de la Torah, il se dévoile à eux comme un bachour yeshiva, comme un vieux dans une yeshiva qui enseigne et qui donne la Torah. Rashi nous dit, ils peuvent peut-être arriver à une conclusion qu'il y a deux dieux. Le dieu de la nation avec les armes, et le dieu des religieux. Donc, où tu fais l'armée, où tu as la yeshiva, tu peux pas faire les deux. Akadosh Baruch Hu dit non. Le même Dieu qui t'est fait sortir d'Égypte et qui est capable de se battre, c'est le même qui est en train de te donner la Torah aujourd'hui. Toda Rabba.